Vous écoutez RTL.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité sur RTL. Ça va,
Sidonie? Très bien. Vous avez vu, j'ai répondu avant. Poser la même question
triché.
Tous les soirs.
C'est
bah
triché,
oui, enfin,
ça.
J'ai un peu habitué maintenant. Oui, bon. Ça, Thomas.
La routine.
Salut à tous, une bonne routine. Au programme, une rencontre exceptionnelle avec une aventurière de l'extrême. Sarah Marquis marche seule depuis 25 ans sur toutes les terres hostiles de la planète. Dernier défi en date, 3 mois dans l'ouest sauvage australien en mode survie. Rien à manger, rien à boire. Et vous savez quels sont ses compagnons ?
Mais oui.
Des crocodiles.
Ça doit être sympa. Et puis on va découvrir aussi des trains de légende. On vous emmène, écoutez bien, en voyage à bord du Transsibérien. On va aussi se balader sur la cordillère des Andes avec le Central Pérou et puis ces trains qui ont redessiné la France depuis la première ligne. C'était en 1827, c'était entre Saint-Étienne et Andrézieux.
Et tout de suite, retour presque un siècle en arrière, c'était l'année 1917.
La curiosité est un vilain défaut.
Le 19 mars 1917, trois navires marchands américains sont coulés dans l'Atlantique. C'est exactement ce qu'attend le président américain. Woodrow Wilson. Il a besoin d'un prétexte fort pour faire intervenir l'Amérique.
Et si j'étais né en 17, à Leidenstadt.
La guerre chimique a commencé. C'est à qui inventera les gaz les plus toxiques, comme le chlore, le gaz moutarde, l'hyperite, qui devra son nom à la bataille d'Ypres, en Belgique, faisant des milliers de morts.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dimanche, c'est la nouvelle année 2017. On va commémorer le centenaire de nombreux événements qui se sont déroulés il y a un siècle, comme l'entrée en guerre de l'Amérique. On vient de l'entendre. Bonsoir Jean-Christophe Buisson.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans la curiosité. Vous êtes journaliste, directeur adjoint du Figaro Magazine, l'un des polémistes de Marc-Olivier Fogiel aussi. On se passe l'antenne comme ça de temps en temps. Pourquoi 1917, c'est une année importante dans l'histoire du monde?
C'est une année où il y a vraiment une bascule entre ce qu'on appelait l'ancien monde, ce que des écrivains comme Stefan Zweig ou Joseph Roth ont appelé l'ancien monde, et puis le monde contemporain qui est le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire au milieu de cette guerre qui est atroce depuis les premiers jours de 1914, en 1917, il y a une accélération de la violence, de la brutalité de cette guerre qui annonce en fait les conflits futurs, notamment avec une technique nouvelle. C'est la guerre totale, c'est la guerre où on fait intervenir en masse les tanks, les sous-marins, les avions, où les civils sont beaucoup plus pris à partie qu'avant, ce qui annonce la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les Allemands qui coulent des bateaux américains, ce qui va déclencher ce qu'on a entendu, l'entrée en guerre des États-Unis. Donc il y a vraiment une bascule dans l'ancien monde qui est en train de disparaître avec la disparition des grands empires, de l'Empire ottoman, de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire russe qui commence à se déliter. Et puis l'arrivée de nouvelles puissances, l'Amérique, et puis une redistribution des cartes dans l'Europe avec des nouveaux pays qui vont naître sur les décombres de cette guerre dont les derniers soubresauts commencent en 1917 véritablement.
Jean-Christophe Buisson, vous établissez plusieurs parallèles entre 1917 et aujourd'hui dans un livre publié aux éditions Perrin. Il y a évidemment les grandes bascules géopolitiques, on va y revenir tout à l'heure. Puis il y a aussi les grands mouvements de société, les grèves. Par exemple, que se passe-t-il en France le 5 janvier 1917 ?
Alors, à cette date-là, les midinettes, ce qu'on appelle les midinettes, c'est-à-dire midinettes à l'époque, c'est les jeunes filles naïves et sentimentales, mais c'est aussi le surnom des couturières, des jeunes filles qui travaillent dans la haute couture. Elles se mettent en grève parce qu'elles, depuis quelques mois, il y a une inflation des prix, donc leur niveau de vie a baissé, leur salaire n'augmente pas, il est même inférieur au premier jour de la guerre. Elles n'arrivent plus à s'en sortir et elles regardent en Angleterre ce qui se passe. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle la semaine anglaise, c'est-à-dire qu'avant, on travaillait 6 jours. Et depuis quelques années, en Angleterre, on ne travaille plus que 5 jours et demi, mais on a gardé le salaire de 6 jours. Et elle demande la même chose, en disant, nous, on a besoin de moins travailler, surtout qu'on s'occupe non seulement de travailler, mais on s'occupe de la famille, puisque les maris sont partis travailler, enfin, faire la guerre et mourir guerre, souvent la guerre. Donc elle demande ça. Et comme elle n'y arrive pas, elle se met en grève. Et c'est assez inédit, et ça annonce des mouvements de grève qui vont se répéter toute l'année 17. En 1917, il y aura plus de 300 mouvements de grève, alors qu'il y en avait à peine une centaine l'année précédente, qui vont concerner plus de 100 000 personnes.
Oui, les mouvements en mai aussi.
Alors c'est en mai que ça va prendre une autre ampleur, avec une ampleur plus politique, parce qu'entre-temps, il y aura eu la révolution, la première révolution en Russie en mars. Mmh. Et donc les grèves sociales qui demandent, encore une fois, un meilleur niveau de vie, un meilleur salaire, des primes, il va y avoir les délégués du personnel, sont nés en 1917, on appelle ça des délégués d'atelier à l'époque, ça naît à cette époque-là. Donc elles demandent ça et on demande la fin de la guerre. Donc en mai, les grèves s'accompagnent aussi d'un mouvement politique. Le 1er mai, qui n'avait pas été célébré depuis 1915, est célébré en 1917. On dit à bas la guerre, c'est quelque chose de nouveau et qui fait référence. On s'est rendu compte qu'en Russie, il y avait une révolution qui avait réussi. On avait mis à bas le régime. Les ouvriers et les paysans sont supposés diriger le pays maintenant, même si les bolcheviks ne sont pas encore arrivés. On se dit qu'on peut faire la même chose en France.
Autre combat qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est le combat pour l'égalité hommes-femmes. Le 7 novembre dernier, vous vous en souvenez sans doute, les femmes manifestaient en France. Vous nous rappelez pourquoi, Jean-Christophe Buisson ?
Eh bien parce qu'elles considéraient on considère qu'à partir de ce moment-là, tout ce qu'elles gagnent, en fait, c'est inférieur
à partir de 16h34.
À partir de 16h34, voilà. Ouais. Tout ce qu'elles gagnent, les hommes gagnent de l'argent.
Elles travaillent sans être payées, quoi, d'une
Exactement.
Certaine façon.
À peu près
si
15% de salaire en moins,
comparent
en moyenne.
Au salaire masculin.
Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est la même moyenne. C'est assez curieux, parce qu'elles font des travaux manuels, des travaux ouvriers. Et en fait, évidemment, les salaires n'étant pas élevés, on ne peut pas les payer beaucoup moins. Mais on les paye quand même beaucoup moins. Et les syndicats, d'ailleurs, s'opposent à ce que les femmes travaillent à cette époque, parce qu'ils ont peur que les femmes soient beaucoup plus manipulables par leur patron.
Et le 4 mars 17, Jean-Christophe Buisson, ça, c'est une date importante, parce qu'il y a une pionnière. Aux États-Unis, qui est-elle ? Pourquoi est-ce une pionnière ?
C'est Janet Rankin, qui est une femme, une féministe, vraiment une féministe, qui est allée défendre un amendement qui a fini par passer dans la Constitution, qui permet aux femmes d'être élues. Et une fois que cet amendement a été passé dans la Constitution américaine, elle retourne dans son État qui s'appelle le Montana, et elle se fait élire à la Chambre des représentants, et elle est la première femme élue à la Chambre des représentants aux États-Unis. Et ensuite, c'est une femme à la fois féministe et pacifiste, elle va s'opposer à l'entrée en guerre des États-Unis, non seulement en 1917, mais aussi en 1941 après Pearl Harbor, et aussi, puisqu'elle n'est morte que dans les années 70, pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une ligne et qui est élue républicaine, ce qui peut paraître surprenant parce que...
Aujourd'hui, la parité, c'est plutôt...
Oui, puis Donald Trump, je ne suis pas sûr qu'il aurait été... Non. Mais à l'époque, le Parti républicain, c'est pas comme aujourd'hui. Le Parti républicain est progressiste, il est assez puritain, mais il est progressiste et il s'oppose au trust américain. Il a évolué ensuite, mais à l'époque, le Parti républicain n'est pas vraiment un parti de droite au sens où on l'entend aujourd'hui.
Alors, il y a la politique, la géopolitique. On reviendra sur l'entrée en guerre des États-Unis tout à l'heure. Et puis 1917, c'est aussi une année majeure pour le sport. Saviez-vous que la Coupe de France de football a été créée cette année-là ? Tout de suite, les curieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'était il y a un siècle, l'année 1917 allait commencer et les Français exténués par la guerre ne se doutaient certainement pas que cette année serait aussi importante. 1917, l'année qui a changé le monde, c'est ce que l'on découvre sur RTL et dans le livre de notre invité, le journaliste Jean-Christophe Buisson. Que se passe-t-il d'important en France le 15 janvier 1917 ?
Il y a la création de la Coupe de France de football qui est née ce jour-là, qui s'appelle la Coupe Charles Simon, qui est en l'honneur de l'ancien président de l'équivalent de la Fédération française de football à l'époque. Il y a plusieurs fédérations qui sont regroupées à ce moment-là, qui s'appelle Charles Simon, qui est mort au front en 1915. Donc on crée cette Coupe de France de football.
Qui participe ?
Alors c'est ça qui est intéressant.
Et qui l'emporte ?
Il y a 48 clubs qui participent, dont deux clubs britanniques. Vous savez qu'à l'époque, un quart du territoire est occupé par les Allemands, donc toutes ces régions-là ne peuvent pas participer. Donc il y a beaucoup de clubs parisiens, de la région lyonnaise. Et d'ailleurs, la finale opposera l'année suivante, puisque le premier tour a lieu le 7 octobre 1917, et la finale en mai 1918 opposera l'Olympique de Pantin au Football Club de Lyon. Et c'est l'Olympique de Pantin qui gagnera, avec une finale qui est très étonnante, parce qu'il y a plein d'étrangers qui jouent à cette époque. Par exemple, le gardien de Lyon est uruguayen, et la veille de la quelques jours avant la finale, il a la Légion étrangère, il est convoqué sur le front, donc il ne participe pas, donc il est obligé de mettre en avant-centre dans les buts, donc ils prennent 3 buts. Et il y a quelque chose qui se passe dans ce match qui est formidable. À un moment donné, le gardien de Pantin met un crochet droit à un avant-centre qu'il est un peu bousculé, il est exclu, et le capitaine de Lyon va voir l'arbitre en disant non, ça a faussé le match, on ne veut pas qu'il soit exclu. Moyennant quoi, Lyon a perdu 3-0, mais voilà, très fair play.
Oui, ça n'arriverait plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certains clubs qui ont participé à cette première Coupe de France qui existent encore aujourd'hui ?
Oui, Monaco, Toulouse, Bordeaux, alors des clubs de Paris qui ont changé 15 fois de nom, comme
oui, bien
vous savez,
sûr.
Donc je ne sais pas lequel on pourrait citer, mais tous ces clubs-là, Rennes aussi, plusieurs clubs. Alors après, ils ont changé de nom évidemment, mais il y a ces clubs-là
qui ont participé. Il y avait déjà ces villes-là qui
c'était sur terrain neutre
qui participaient. Ah oui,
et on rejoint le match comme en Angleterre aujourd'hui après un match nul.
Et donc vous nous disiez que le nom de cette Coupe de France portait le nom d'un poilu, d'un Français mort au front en 1915. La guerre, justement, 1917, c'est vraiment un moment charnière parce que les États-Unis vont entrer en guerre. Alors, il faut prendre un peu le temps d'expliquer. D'abord, le 1er janvier, le président Woodrow Wilson prend ses fonctions. Il a été réélu quelques semaines plus tôt. Sur quelle promesse ?
Sur la promesse de ne jamais entrer en guerre. jamais entrer en guerre. On ne se mêle pas. Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine Monroe aux États-Unis depuis des décennies. Le principe, c'est que les Européens ne s'occupent plus des affaires en Amérique, dans les Amériques. Ça, c'est l'affaire des Américains du Nord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'occupent un peu d'Amérique centrale et du Sud dès l'époque. Ouais. Et en échange, les Américains ne s'occupent pas des affaires européennes. Ça, c'est une doctrine qui est établie depuis de longues décennies. Il est hors de question de venir participer à la guerre, de sortir de la neutralité.
Et pourtant, le président Woodrow Wilson ne respecte pas sa promesse. Pour quelle raison ?
Alors, il y est contraint. Pourquoi ? Parce que les Allemands, à la fin du mois de janvier, déclarent la guerre totale. La guerre totale, le principe, c'est que désormais, à partir de maintenant, dès qu'il y a un bateau, quelle que soit sa nationalité, même d'un pays neutre comme les États-Unis, arrive dans un port allié, et même si c'est un bateau civil, on le coule. C'est ce que disent les Allemands. Ils veulent briser, là, parce qu'on sait très bien que les Américains viennent aider les Anglais de temps en temps, en apportant peut-être des armes, en tout cas de la nourriture, des vêtements.
Donc il y a plusieurs bateaux américains qui sont coulés.
Des dizaines de bateaux américains qui sont coulés. Et donc Wilson dit maintenant, c'est plus possible. On rompt les relations diplomatiques avec l'Allemagne dans un premier temps en février. Et ensuite, en avril, il décide d'entrer en guerre.
Et puis vous racontez dans votre livre 1917, l'année qui a changé le monde chez Perrin, une mission secrète d'un philosophe français.
Oui, c'est Henri Bergson. Et c'est très important parce que les Américains ont besoin... Comment ils vont justifier l'entrée en guerre après avoir dit qu'ils n'entreraient pas en guerre, d'un point de vue moral, en disant « les Allemands sont des barbares ». Et pour les aider à théoriser cette idée, ils cèdent Henri Bergson qui vient faire des conférences aux États-Unis sous un faux nom pour dire pourquoi, à un moment donné, un pays doit entrer en guerre pour défendre la civilisation contre la barbarie. Et c'est vrai que c'est une doctrine qui est restée dans la tête puisque aujourd'hui encore, les États-Unis, souvent... justifient leur intervention, notamment en Afghanistan ou en Irak, par le fait qu'ils défendent une certaine idée de la civilisation qui est menacée par la barbarie. Donc là, ils se sentent obligés d'intervenir, y compris dans les pays. Et donc, c'est la première fois que les États-Unis interviennent en Europe, interviennent militairement. C'est un moment important parce que depuis, ils sont toujours restés très présents en Europe. Et encore une fois, cette idée morale, cette idée de mettre de la morale dans la politique, la géopolitique, est restée très prégnante jusqu'à nos jours.
Oui, mais avec Donald Trump, tout va peut-être changer. L'Amérique, gendarme du monde.
Alors Donald Trump laisse entendre justement que lui, il veut ressortir de ça. Il veut retourner dans l'isolationnisme qui avait caractérisé les États-Unis pendant un siècle. Mais maintenant, il y a tellement de structures qui ont été installées dans le monde entier qu'on ne voit pas très bien quelle est sa marge de manœuvre réelle pour que les États-Unis cessent d'être impérialistes comme ils le sont depuis un siècle.
1917, c'est aussi une année marquée par une apparition le 13 mai au Portugal. Laquelle ? Réponse dans un instant, les curieux sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Le 13 mai 1917, trois petits bergers portugais sont témoins d'un événement venu du ciel. À Fatima, la Vierge Marie apparaît à Lucia, Jacinta et Francisco.
RTL.
Sur le front de la Grande Guerre, le ballon ronconnait sa première démocratisation. Des poilus venus de tous les territoires de France découvrent le football. L'armée achète même dès janvier 1917 5000 ballons. Les footballeurs des tranchées, ancêtres légitimes des footballeurs d'aujourd'hui.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans 4 jours, on y sera. 2017, l'occasion pour nous de remonter un siècle en arrière et de découvrir comment l'année 1917 a changé le monde avec le journaliste Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Alors, on a eu un peu la réponse à la question que je vais vous poser maintenant dans la mise en onde d'André Facetta. Que se passe-t-il le 13 mai 1917 au Portugal ?
Alors, à 130 km au nord de Lisbonne, il y a un petit village qui s'appelle Fatima. Il y a 3 jeunes bergers qui ont 19 et 7 ans qui voient la Vierge, qui voient une apparition, qui voient une dame en blanc qui leur dit qu'il faut réciter des chapelets, pour arrêter la guerre. Et lorsqu'ils reviennent, ils racontent ça à leur curé et leur famille, personne ne les croit, sauf que cette apparition se renouvelle un mois plus tard, le 13 juin, puis encore un mois plus tard, et cette fois, il y a 4000 personnes qui accompagnent, mais ils ne voient rien du tout. Eux continuent à voir la Vierge.
C'est-à-dire que les trois jeunes bergers disent on voit la Vierge, et les gens autour,
les gens qui sont là ne voient rien du tout, rien de spécial. Mais il y a un engouement, on sent qu'il se passe quelque chose. Et
on leur remet un message particulier à ces trois enfants.
Alors voilà, un jour, la Vierge va leur remettre un message en trois parties, qu'on a appelé les trois secrets de Fatima, qui vont être révélés pour les deux premiers en 1941-42 et pour le dernier en l'an 2000 seulement. Le premier message dit que c'est une vision, elle leur décrit une vision de l'enfer. Le deuxième est plus intéressant parce qu'il explique que si la Russie ne se convertit pas, sous-entendu au catholicisme, puisqu'elle est orthodoxe, elle va sombrer dans un chaos et entraîner une partie du monde avec elle. Donc ça, c'est assez visionnaire. Et le troisième secret qui sera révélé en 2000, c'est qu'elle voit un ange armé d'une épée qui s'approche d'un homme en blanc et qui l'assassine. Et c'est pense-t-on, l'annonce de l'assassinat de, enfin, la tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1980.
Mais et quand ça, vous ça dites qu'ils sont révélés dans les années 40 et 2000, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Lucie, qui est l'aînée de ses enfants, a fini par dire de quoi il s'agissait. Et en revanche, en 2000, c'est resté secret. Ça n'a été révélé que par le Vatican qu'en l'an 2000, le troisième secret de Fatima, qui donc concernait éventuellement un événement qui était arrivé en 1980.
Alors évidemment, on n'est pas obligé de croire à ces révélations de Fatima, mais en quoi ces révélations en 1917 sont importantes pour nous aujourd'hui? Elles continuent à marquer notre époque?
Oui, parce que maintenant, il y a un pèlerinage tous les ans à Fatima, parce que on ne les croyait pas au début, mais il y a eu une sixième apparition, parce qu'il y en a eu toute l'année 1917, le 13 octobre, et là, il y avait 20 000, 30 000 personnes qui étaient présentes, et d'un seul coup, tous les gens qui étaient présents ont vu une chose extraordinaire, ils ont vu des choses dans le ciel, pas tout à fait normales, c'est-à-dire qu'il pleuvait, et d'un seul coup, ça s'est arrêté, il s'est arrêté de pleuvoir, le soleil est apparu, il a fait des tours sur lui-même, il a lancé des éclairs, et il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont vécu ça, dont le journaliste le plus anticlérical du Portugal à l'époque, qui en a fait un article en disant « Je dois dire que j'ai vu des choses qui ne sont pas tout à fait normales oui. ». Et donc ça a lancé un engouement un peu comme à Lourdes, effectivement, avec Bernadette Soubirou. Et une chapelle a été construite parce que la Vierge Marie avait demandé aux enfants de faire construire une chapelle dédiée à elle. Et depuis, un pèlerinage qui est un des plus importants pèlerinages catholiques en Europe aujourd'hui encore.
Oui, c'est pas le début, on va dire, des phénomènes paranormaux
non,
1917. Non, on ne peut pas dire ça non plus.
Non, mais toutes les tentatives, on pense que ça peut être aussi une soucoupe volante. Enfin, les gens les plus rationalistes ont cherché des explications, personne n'y est arrivé, mais voilà, aujourd'hui encore le mystère demeure et sans doute faut-il qu'il demeure.
1917, l'année qui a changé le monde, c'est le titre de votre livre, Jean-Christophe Buisson, publié aux éditions Perrin. Par exemple, un autre changement, une autre révolution, quand les militaires allemands expérimentent pour la première fois une arme nouvelle.
Oui, okay. C'est quelque chose d'atroce. C'est le souvenir le plus atroce de beaucoup de poilus, c'est ce qu'on a appelé le gaz moutarde, c'est l'hyperite. C'est un gaz vésicant, c'est-à-dire qui vous brûle les yeux, les poumons, qui vous laisse des traces absolument épouvantables. Et à Ypres, dans cette petite ville de Belgique où sont stationnées des troupes britanniques, ils vont envoyer, je crois, 50 000 obus en 3 jours. Et les masques à gaz ne feront même pas assez effet parce qu'il n'y a pas assez de masques à gaz. Et c'est vrai que cet événement annonce d'une certaine manière ce qu'on verra à Auschwitz et Hiroshima, c'est-à-dire l'industrialisation mécanique, technique, d'armes de guerre absolument terrifiantes. Et au point que, comme on l'entendait tout à l'heure dans le son, la ville d'Ypres a donné son nom à ce gaz qu'on appelle l'hyperite en référence à la ville d'Ypres en Belgique.
Ça veut dire que de ce jour-là, on ne fait plus la guerre de la même façon? On peut dire ça, Jean-Christophe Buisson?
Oui, je pense réellement ça, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée, ça, j'allais dire, ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'on en a marre de cette guerre au bout de 3 ans, il faut en finir, et donc on fabrique des armes, des tueries de masse pour prendre le dessus sur son adversaire. C'est le principe de l'arme nucléaire. Ouais. On arrose tout, on tue 100 000 personnes et peut-être que l'autre va enfin déclarer demander la paix.
C'est joli ça, déclarer la paix.
Déclarer la paix, ouais. Demander la paix, en tout cas. C'est un peu le principe, encore une fois, des chars, des avions, qui est, bon, on va économiser des hommes, parce que en avril 1917, il y a eu cette grande offensive sur le chemin des Dames, qui est la dernière grande offensive absolument terrible, où 250 000 soldats français en quelques semaines sont soit tués, soit blessés, soit handicapés à vie ou faits prisonniers. Et le général Pétain, d'où sa popularité, dit qu'il faut en finir avec ces assauts absurdes. On attend les chars et les Américains, dit-il à l'époque. Et les chars, effectivement, on est mieux protégés. Il y a 2 personnes dans le char et on tue d'autres gens en économisant des vies. Mais si les autres font la même chose, ça donne des tueries de masse.
Oui, et malheureusement, on voit encore aujourd'hui que ces méthodes militaires sont toujours utilisées, évidemment, notamment en Syrie. 1917, c'est aussi une année plus légère. On invente le dessin animé, on grave le premier disque de jazz et on passe pour la première fois à l'heure d'été. À tout de suite, les curieux.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
1917-2017, on fait le parallèle entre les deux époques et on découvre sur RTL comment l'année 1917 a fait basculer le monde dans une nouvelle ère. Et c'est le journaliste Jean-Christophe Buisson qui nous raconte. Dans La Curiosité, on y apprend par exemple qu'il se passe quelque chose de particulier un 14 juin. Très précisément.
Le 14 juin, on décide de faire ce qu'on fait aujourd'hui en pensant que c'est nouveau, c'est-à-dire de changer d'heure, en tout cas au moment de l'été, pour faire des économies d'énergie. À l'époque, c'est pour économiser des tonnes de charbon. Quelques décennies plus tard, après la crise pétrolière de 73, on décide la même chose pour économiser du pétrole. Mais dès à l'époque, on a cette idée-là, ça passe à l'Assemblée nationale, c'est voter l'Assemblée nationale, de passer à l'heure d'été.
Oui, votre objectif avec ce livre, c'est de faire les parallèles, et de voir comment en 17, on a finalement inventé beaucoup de choses qui résonnent encore aujourd'hui. On entendait en préambule de cette séquence la mise en œuvre d'André Facetta, la musique d'un film, c'est pas n'importe lequel, c'est un film signé Charlie Chaplin.
Et c'est un film qui a
L'Émigrant, c'est ça ?
The Immigrant, ouais. L'Émigrant, si on traduit littéralement, et c'est un film qui résonne, en tout cas quand on le voit, parce que c'est cette image, on se souvient souvent de ce film, c'est Charlie Chaplin qui joue dans un restaurant, qui n'a pas d'argent, qui joue avec ses doigts, mais c'est surtout l'histoire d'immigrés qui viennent d'Europe et qui arrivent sur la petite île qui est en face de New York, mmh. et qui sont face à la Statue de la Liberté avec une corde qui les sépare,
agglutinés,
et ils vont être séparés entre ceux qui seront acceptés et ceux qui ne le seront pas. Et c'est vrai que quand on compare avec aujourd'hui les millions d'émigrants qui viennent, qui fuient les guerres, qui arrivent en France, et une fois qu'ils sont en France, bah parfois ils vont rester, parfois ils ne vont pas rester, mais ils sont déjà en France. Et là, c'est la même chose. C'est cette image de Chaplin devant une corde avec la Statue de la Liberté. C'est-à-dire, je suis dans le pays de la liberté, mais j'y suis pas vraiment parce qu'il y aura une sélection qui sera faite. Et ça résonne évidemment à nos yeux et à nos oreilles aujourd'hui.
Alors, une autre journée marquante de 1917, c'était le 26 février. On enregistre ça. Livery Stable Blues, cette musique, elle est historique, Jean-Christophe Buisson. Pourquoi ?
Eh bien, c'est le premier disque de jazz qu'on enregistre, le premier disque de l'histoire du jazz.
Le premier d'une longue série.
Ce premier d'une longue série, ce n'est pas rien. C'est un quintet, c'est assez intéressant parce qu'ils sont tous blancs, ce sont des Italo-Américains. C'est enregistré à Camden, à côté de Philadelphie. C'est un orchestre qui vient de la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est un enregistrement assez étrange parce qu'il y a du piano, il y a de la batterie, il y a une trompette, un trombone, mais il y a aussi des bruits d'animaux.
Oui, il y a des hennissements.
Des hennissements, des mugissements à la fin du morceau, c'est assez étonnant. Et c'est un morceau qui va faire un carton, il va se vendre à 2 millions d'exemplaires en une année. Et évidemment, ça ouvre l'histoire du jazz, donc c'est un événement quand même crucial dans l'histoire du monde.
L'histoire du jazz et l'histoire du disque, puisque
gravé, c'est un 78 tours, bien entendu.
Gravé des disques, oui, évidemment. Toujours dans le domaine artistique, 1917, c'est l'année du premier film d'animation. Alors moi, j'aurais vraiment mis ma main à couper que ça avait lieu aux États-Unis, et non.
Non, mais le thème est extraordinaire. Ça s'appelle El Apostole, et c'est l'histoire du président de l'Argentine. C'est un film argentin, oui. d'un réalisateur qui s'appelle Cristiani. Et l'histoire, c'est le nouveau président argentin qui se fait élire en disant « je vais nettoyer la ville de la corruption » et qui, pour nettoyer la ville de la corruption, se fait aider par qui ? Par Jupiter. Et Jupiter, donc, il lui demande son aide, et donc Jupiter envoie sa foudre sur la ville pour nettoyer les quartiers qui sont supposés corrompus, mais évidemment, ça met le feu à la ville.
Ben oui.
Et on voit la thématique qui est derrière, c'est de dire, les hommes politiques se font élire en promettant de ne plus être corrompus, et ils font pire que leurs prédécesseurs.
Oui.
C'est un thème incroyable, avec l'idée, donc premier dessin animé, et puis l'idée d'une sorte de super-héros, en tout cas en 7 des dieux. Donc tout est là dans ce premier film, déjà, de thématiques qui vont nourrir le cinéma tout au long du XXe siècle.
Et avec un destin surprenant pour ce film qui parle d'incendie, lequel ?
Oui, en 1926, ce film disparaît parce que la seule bobine qui existe disparaît dans un incendie, évidemment.
Jean-Christophe Buisson, dans votre livre 1917, l'année qui a changé le monde, il y a un autre élément important. On peut revenir sur le foot, on l'a entendu dans la mise en onde tout à l'heure. C'est la démocratisation du foot. On prend peut-être conscience que la guerre de 14, ça a été pour beaucoup de Français l'occasion de savoir ce qui se passait dans d'autres régions, de découvrir des coutumes, de découvrir les plats, la nourriture, etc. Et ça a été aussi un moyen pour le foot de se démocratiser. Comment ?
Oui, ben justement, parce que l'État prend conscience qu'à l'arrière, avec cette création de la Coupe de France, il y a un engouement pour ce sport, mais même dans les tranchées. On s'est rendu compte que c'est un sport collectif qui réunit les gens. On l'a dit tout à l'heure, c'est l'époque où il y a des mutineries en 1917, mm-hmm. des grèves assez dures, il y a une contestation de la guerre. Et finalement, dans ces pauses qu'il peut y avoir en laissant les poilus jouer au foot entre deux combats, se crée quelque chose, un engouement qui va être utilisé. Et il va y avoir
ça faisait partie des promesses de Pétain, d'ailleurs, d'une
Absolument.
Certaine façon aussi. Et sa popularité
d'améliorer
future
le sort,
construit absolument. Aussi avec ça.
Absolument. Et il va même y avoir des matchs, parfois, c'était le thème du film de Christian Carion, souvenez-vous, Joyeux Noël, il va y avoir des matchs de foot entre Français et Allemands. Au moment de Noël, ils font une pause. Et c'est vrai que le gouvernement, voyant ça, va acheter des ballons de foot en quantité astronomique. Ça va être aussi voté à l'Assemblée nationale, acheter on l'a dit tout à l'heure, 5000 ballons en janvier, à nouveau 5000 en septembre. En se disant, mais bon sang, ce sport est formidable, même s'il vient d'Angleterre.
Merci
beaucoup. Soyons fair play, nous aussi.
Jean-Christophe Buisson, merci. 1917, l'année qui a changé le monde, c'est publié aux éditions Perrin. À bientôt.
Dans la suite de votre curiosité sur RTL, rencontre avec une aventurière de l'extrême.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous écoutez RTL.